Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Quel est votre avis ? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle, plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père, qui est aux cieux, ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Et oui, le Père veut que tous ses enfants soient avec lui. C'est normal, il est Père, comme un père de famille. Il ne supporte pas d'avoir un enfant en dehors de la maison qui erre avec de mauvaises fréquentations, qui fait de mauvaises choses, qui est malade, qui boit, qui se drogue. Je ne sais pas, moi, c'est viscéral, la souffrance de Dieu. Depuis que l'homme s'est séparé de Dieu, le Père souffre parce que l'union avec Dieu était, Dieu avait uni l'homme. Il n'est pas bon que l'homme sépare ce que Dieu a uni. Vous vous rappelez, il n'est pas bon que l'homme sépare ce que Dieu a uni. Et l'homme séparé de Dieu, évidemment, d'abord il est séparé dans ses facultés spirituelles, c'est-à-dire cette mémoire, cette intelligence, cette volonté, hein, sont coupées de Dieu. Hein, l'intelligence coupée du Fils, la volonté coupée de l'esprit d'amour, la mémoire coupée du Père. Voyez, donc l'homme est coupé de Dieu. Mais aussi on découvre que jusque dans notre corps, hein, dans notre corps, puisque Jésus veut être la pulsion qui fait battre notre cœur, veut être la pulsion qui nous fait agir dans nos mouvements, dans nos mains, la pulsion qui fait bouger notre langue et notre corde vocale, nos cordes vocales pour pouvoir parler. Donc Jésus veut aussi que notre corps soit une expression de la vie divine, de la vie, de la divine volonté en nous. Et ça s'est séparé, vous voyez, ça, la rupture, donc c'est absolument terrible cette séparation, la douleur de Dieu depuis que Adam a quitté cette intimité qu'il avait avec lui, depuis que Dieu a laissé Adam et Adam a laissé le paradis, la douleur de Dieu est infinie. On n'a même pas idée des conséquences de cette souffrance de Dieu. Hein? On n'a pas idée. Alors, là, dans cet évangile, Jésus, voyez, va chercher la brebis perdue. Les autres, elles restent avec le Père. Elles sont dans le secret du Père, elles sont avec le bon pasteur, le berger, mais c'est l'homme. L'homme s'est perdu. Et Jésus, c'est son travail, voyez. Jésus va aller chercher l'homme perdu. C'est le premier travail que va faire Dieu en Jésus-Christ. Il va sauver l'homme, il va aller le chercher et le guérir. Voyez, il va aller le guérir, il va aller à sa recherche. Dieu va se faire homme. C'est ce qu'on va célébrer à Noël, c'est l'incarnation. Il va courir à la recherche de cet homme complètement déconnecté de Dieu, complètement centré sur lui-même, complètement blessé, complètement aveugle, sourd, muet à Dieu. L'homme recroquevillé, comme le voyait saint Bernard dans cette femme toute courbée, l'homme recroquevillé sur lui-même, qui n'a plus la vie de Dieu, qui est agonisant. Ben, le bon berger, Jésus, va laisser... Hein, le royaume de Dieu, et il va se faire homme pour aller chercher cet homme perdu, cette brebis égarée. Et il va la trouver. Il va la trouver, il va lui parler, il va l'amadouer, il va lui donner des paroles plus douces que le miel, et cet homme va revenir vers Dieu, il va se laisser guérir, il va le prendre sur son cœur, sur ses épaules, le bon berger, et il va se laisser guérir par la parole, par la grâce qui va le transformer, la grâce sanctifiante. Qu'est-ce que fait Jésus ? Il va réparer l'homme. Jésus va réparer l'homme. L'homme abîmé, il va le réparer par les sacrements aussi. Vous voyez, la confession, l'Eucharistie, il va réparer l'homme. Vous voyez ? Et il va réparer aussi ce que l'homme a fait de mal pour redonner la gloire au Père. Réparer, c'est ça. Je répare quelque chose qui est cassé, mais je répare aussi les conséquences que cette chose cassée a coûté à d'autres. Vous voyez ? Et oui, hein, voilà, c'est comme ça. Donc Jésus va faire ce premier travail, il va réparer l'homme, le guérir de ses blessures à travers son sang, à travers sa vie, sa croix, etc. Vous savez, et il va aussi réparer ce que l'homme n'a pas fait, qu'il aurait dû faire pour le Père, donner au Père la gloire que l'homme n'a pas fait, puisqu'il n'a pas voulu faire la volonté de Dieu, donc il a bafoué le Père, il s'est moqué de lui, il a dû adorer d'autres dieux, en fait ça a été terrible, vous voyez. Voilà, ça c'est ça cet évangile. Et après, évidemment, il y a quelque chose qui va encore plus loin, c'est que, bon, une fois que Jésus a réparé l'homme et l'a mis sur pied, et que l'homme en Jésus glorifie le Père, puisque Jésus va reprendre tous ces hommes blessés, va dire, regarde, ils ne peuvent pas te louer, ils ne peuvent pas te bénir, te chanter, ils sont aveugles, ils n'entendent pas ta parole, mais moi je le fais au nom de tous. Voilà, reçois chacun d'eux, comme s'ils étaient tous vivants dans ma divine volonté. Donc Jésus va glorifier le Père au nom de tous les hommes. Ça y est, c'est fait. Bon, mais après il y a une deuxième partie. Ben, c'est pas l'évangile, mais déjà j'ouvre une porte. Jésus va devoir souffrir d'une manière terrible dans l'incarnation et dans la rédemptrice sur la croix. On voit toutes ces morts, tous ces noms de l'homme, tous ces actes que l'homme n'a pas fait en communion, en union avec Dieu, donc puisque chaque acte de la volonté humaine coûte une mort à Dieu. Chaque pensée humaine séparée de Dieu coûte une épine dans la tête de Jésus. Vous voyez, il y a autant de morts que d'actes que nous avons faits sans Dieu. Hein? C'est ça, il faut rétablir donc une harmonie, il faut rétablir une justice. Donc Jésus va payer pour tous les actes, toutes les pensées dans sa passion et il va être défiguré. Hein? Alors nous maintenant, une fois que maintenant, si vous vivez dans la divine volonté, que vous êtes rétabli, que vous êtes guéri et rétabli, bon, plus ou moins, hein, mais quand même, pas mal, hein, puisqu'il suffit de croire pour y entrer, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Mais maintenant, on va réparer Jésus. On va guérir Jésus. On va consoler Jésus. On va aimer Jésus, on va le consoler, on va participer, comme dira l'apôtre Paul, communion à ses souffrances, vous voyez. On va lui faire revivre la vie de Jésus, puisque la finalité, maintenant, dans la réparation, c'est que nous revivions la vie de Jésus. Hein, Jésus, âme, aide-moi, hein, quand il était là, portant sa croix dans ses rues, hein, de en bas là, du balcon de Louisa, âme, aide-moi. Donc on va réparer Jésus, voyez. Jésus a réparé pour nous guérir et pour donner au Père. Et maintenant, nous, dans la divine volonté, on va faire ce qu'a fait Jésus. On va réparer non seulement pour consoler Jésus, mais nous aussi, on va vouloir glorifier le Père, voyez, avec les actes même de Jésus, les louanges de Jésus, les réparations de Jésus. On va vraiment faire le travail de Dieu. Vous comprenez ? C'est beau ça, non ? Voyez, c'est ça la vérité. C'est ça la réparation, hein, qui est le cœur de la vie chrétienne. Le cœur de la vie chrétienne, c'est la réparation. Et qu'est-ce que c'est la réparation ? Eh bien, c'est faire ce que fait Jésus. Enfin, Jésus n'a pas fait quelque chose pour que nous le regardions comme ça, comme des béats et des nigauds en disant « Oh, c'est beau ce qu'il a fait Jésus !» Mais non, il a fait ça pour que toi, tu fasses la même chose. Le Christ, Jésus, donc, a réparé, il nous a guéris, et il a réparé en glorifiant le Père pour tout ce que nous ne lui avons pas donné, tout ce que les hommes ne lui ont pas donné. Et maintenant, dans la divine volonté, eh bien, nous, qu'est-ce que nous faisons ? Nous prenons, hein, « Fais ce que je fais, dit Jésus à Louisa, fais mes réparations, hein, refais ce que je fais. » On prend ce qu'a fait Jésus, on y ajoute notre amour, on y ajoute notre intention. C'est là, très important, on ajoute notre intention. Voyez, et le tour est joué, nous faisons le travail de Jésus avec Jésus, par lui, avec lui et en lui. Et ça, c'est la vraie vie chrétienne, c'est la finalité de la vie chrétienne, et c'est déjà des enfants qui vivent dans la divine volonté, qui font descendre ce règne de Dieu sur la terre, parce qu'ils font vraiment ce qu'a fait Jésus. Vous voyez, et tout ce qu'a voulu faire et tout ce qu'a fait Jésus depuis sa venue dans le sein de Marie, eh bien, c'était en vue d'avoir des enfants qui refasse exactement ce qu'il a fait pour que tous glorifient le Père. Ce n'est pas suffisant que Jésus glorifie le Père en nous incluant tous en lui. Il veut que chacun de nous, nous faisions les mêmes œuvres. Vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez de plus grandes encore, dit-il. Vous vous rappelez ? Donc Jésus veut vraiment que tous, et voilà, il veut que se multiplient ces enfants du royaume de la divine volonté. Alors là, plus on ira en augmentant, plus le Père sera glorifié, sera heureux, voyez, de voir son règne sur la terre. C'est extraordinaire. Bon, mais là, on est au premier temps. Là, on est au premier temps, les amis. Hein, on ne va pas aller trop loin. C'est pour ça que l'Évangile se fixe sur là. Jésus, c'est le bon pasteur. Il va, voilà, quand on a dit qui c'est qui va aller les chercher, les sortir de cette mouise, eh bien, la deuxième personne de la Trinité, le Verbe, a dit « Moi, j'y vais ». Eh bien, il y va. Et il est parti, il s'est fait homme dans le sein de la Vierge, et pour vivre cette chose magnifique de l'amour de Dieu, venir sauver l'homme, la brebis perdue. Eh bien, rendons grâce à Dieu. Et comment rendons grâce à Dieu? Nous rendrons grâce à Dieu. Eh bien, nous allons le faire maintenant. J'élèverai la coupe du salut, bien sûr, et j'offrirai au Seigneur un sacrifice d'action de grâce, eh bien, Jésus lui-même, que nous allons avoir présent dans cette Eucharistie. Amen.